Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 juin et on est ravis de vous accueillir dans cette nouvelle émission. Je dis on bien sûr puisque je suis avec Héloïse. Salut Héloïse.
Salut Marie.
Et justement, tu vas nous parler d'un tout nouveau service proposé dans les festivals et en l'occurrence à Un singe en été à Mayenne ce week-end. Service pour louer des costumes. Et oui, on en parlera. Donc, lors du premier reportage, on va aussi se pencher justement sur cette programmation du festival Un singe en été à Mayenne avec des soirées assez thématiques, mais vous verrez, il y a forcément au moins un groupe qui vous parle. Ça, on parlera évidemment, donc, vous l'avez compris, de la programmation du festival. Et puis, on va également se pencher sur un tout autre sujet, puisque c'était l'Assemblée Générale de l'association Adapay 53, qui réunit des personnes en situation de handicap mental, et qui, justement, pointe plusieurs priorités, que ce soit par rapport à l'accueil des enfants, mais aussi par rapport à celui des personnes handicapées âgées aussi, justement, là aussi, à tout un sujet, on en parlera avec le directeur de l'association. Et puis, plutôt dans une deuxième partie d'émission, eh bien, là aussi, on va rester dans la thématique festival avec les 10 commandements d'Héloïse, non, pas du tout, mais en tout cas, les bons conseils à retrouver avant de vous-même partir en festival. Et oui, ça peut toujours être utile. Et puis, nous sommes jeudi, et jeudi, on retrouve notre cycle de reportage Pensée locale, qui, pour le coup, aujourd'hui, vous emmènera du côté d'Angers, au pont de C très exactement, dans l'établi. Donc, on parlera bricolage, réemploi, recyclage, tout ça, donc, dans le reportage Pensée locale, plutôt dans une deuxième partie d'émission. Mais d'abord, on commence par un point sur l'actualité dans le département. Avec cette assurance de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, pas de fermeture des urgences cet été dans la région. L'ARS, donc, se veut rassurante. Les services seront assurés en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, tandis que dans les autres départements, une régulation téléphonique sera mise en place. Ce sera le cas en Mayenne, et notamment à Mayenne, au centre hospitalier donc du Nord Mayenne dès le 14 juillet. Une organisation régulée sera mise en place tous les soirs, c'est-à-dire que dès 18h30, il faudra appeler le 15 ou le 116-117 avant de vous déplacer. Des salaires plus élevés et un congé menstruel, voilà quelques-unes des revendications des salariés grévistes de l'entreprise Gruau hier à Saint-Berthevin. Ils étaient une quarantaine à avoir débrayé pendant une heure pour, je cite, une augmentation générale de 6% et une demande à ce que la valeur ajoutée créée par nous-mêmes soit partagée. Réponse de la direction, il va y avoir une enveloppe de 3% supplémentaire qui va être redistribuée, 2% au mois de juin et 1% au mois de juillet. En Mayenne aussi, la terre se soulève. C'était l'une des inscriptions vues sur une pancarte hier à 19h pendant le rassemblement devant la préfecture de la Mayenne en soutien au collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre menacés de dissolution par le ministère de l'Intérieur. Ils étaient 70 personnes hier à Laval à manifester. À l'ouest de Laval, un incendie détruit un bâtiment agricole à Saint-Cyr-le-Gravelet au lieu-dit Les Barres hier vers 15h30 très exactement. Le feu a ravagé un hangar de plus de 1000 mètres carrés qui contenait du foin et de la paille. Les animaux, eux, ont pu être évacués à temps. Aucune victime n'est à déplorer. Et les pompiers, toujours sur place, devraient quitter les lieux en début d'après-midi. En football, ça bouge côté mercato pour le Stade Lavallois. 3 nouvelles recrues ont été annoncées cette semaine. L'attaquant Rémi Labo-Lascari en provenance du RC Lens, le défenseur Peter Wanet qui lui vient de Châteauroux et le gardien expérimenté Mamadou Samassa, ex de Guingamp et de Troyes, qui arrive du club de Pahang FA en Malaisie. Et les Tangos joueront 5 matchs amicaux en juillet avant la reprise du championnat le week-end du 5 août.
Et quant à moi, Marie, je déclare la saison des festivals ouverte. Et qui dit festival dit tenue de fête. Et pour cela, on écoute Candice, une Lavalloise qui met à disposition plus d'une centaine de costumes issus de sa collection. Alors que vous soyez adepte des années 80, strass, paillettes ou costumes d'époque, vous trouverez forcément votre bonheur à la déguisette.
J'ai quand même fait un constat, alors c'était l'année dernière, je crois bien, où à un moment donné, mes déguisements étaient plus invités que moi aux événements. Donc, en fait, c'est né tout simplement avec beaucoup de demandes et puis des amis qui m'ont dit pourquoi t'en fais pas un projet, enfin associatif ou professionnel, tu y passes quand même beaucoup de temps, c'est de l'investissement parce que les déguisements, je les achète, bien qu'on fasse des dons aussi. Je les stocke, je les range, je les lave, je les trie. C'est moi qui la garde, c'est toute cette collection, mais plusieurs personnes ont contribué à la remplir au fur et à mesure des années. L'intérêt de la déguisette, c'est avant tout le plaisir et la rigolade qu'on a à chaque fois que quelqu'un met un déguisement. J'ai des pièces qui datent de X années et à chaque fois qu'une nouvelle personne met le même déguisement, ça rend pas le même effet. C'est créer des propres personnages. Pense à Captain Noël. Enfin, c'est juste une robe de Mère Noël assez mythique de la déguisette aussi. Et à chaque personne qui la porte, c'est toujours un gag. Et à ça, on rajoute une casquette de capitaine. Voilà, Captain Noël. Ça nous a bien fait rire au moment du carnaval de cette année. J'ai un déguisement qui me tient vraiment à cœur. Déjà parce que quand je l'ai acheté, c'était à Emmaüs. C'est une petite grand-mère qui nous a fait entrer un petit peu dans la mezzanine secrète avec tous les déguisements. C'est une robe orange à épaulettes avec des pois. Cette robe est magnifique et à chaque personne qui la met, ça raconte une histoire différente. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de mon travail, de faire de l'art-thérapie, une pièce de théâtre avec une patiente où on était un binôme, un duo, et elle avait cette robe-là. On avait bien rigolé et malheureusement, cette patiente est décédée dans des circonstances très difficile cette année. Et du coup, je garde souvenir d'elle dans cette robe. Et voilà, ce sera ma... Si j'ai une pièce à retenir de la déguisette, c'est celle-ci. J'ai la chance aussi d'avoir hérité d'une caravane. Donc, elle pourra servir aux festivaliers de loge pour pouvoir se changer tranquillement et qu'on puisse garder leurs affaires en sécurité aussi. Comme on fera un système de vestiaire, échange déguisement, vêtements pour la soirée.
Et si vous aussi, vous avez envie de profiter gratuitement des costumes hauts en couleur de Candice pour la soirée, vous pourrez la retrouver dès demain dans le parc du château de Mayenne au cours du festival Un singe en été.
Et oui, puisque c'est la 9e édition du festival ce week-end à Mayenne, organisée par l'association Tribu. Ça commence donc, Héloïse, tu l'as dit, dès demain, avec deux soirées musicales ce vendredi et samedi dans le parc du château, sans oublier une journée plus familiale le dimanche. Et après les 3500 festivaliers accueillis l'an dernier, le programmateur d'Un singe en été, Steven Jourdan, espère faire aussi bien cette année.
On a pris le parti cette année de vraiment créer des soirées, alors je dirais thématiques non, mais pour certains, en tout cas des esthétiques un peu plus marquées. On a un vendredi soir qui pour le coup va être très rap, très musique urbaine. Clairement, on va attirer aussi un public un peu plus jeune, évidemment, sur cette soirée. Donc c'était un des objectifs aussi. Et pour l'instant, c'est la soirée qui clairement en billetterie parle le mieux. Kalash Criminel, qui est notre tête d'affiche du vendredi hein, en rap, hein, qui se fait assez rare sur les festivals, on en a fait peu au final dans sa vie, un peu de dates en salle de concert qui sont très vite complètes, donc on est très heureux de pouvoir l'accueillir ici à Mayenne sur le festival, et il sera accompagné à côté d'un côté par Ben PLG, donc qui fera l'ouverture de la soirée, hein, qu'on a pas mal découvert sur le Nouvelle École, qui était la série Netflix sur le rap pour le coup, là, donc la première saison, et après suivi par Simoni, hein, qui est un rappeur de Paris qui est plus rap électro, voire un peu trap, qu'on voit un petit peu plus, et ce qui nous a permis de faire la bascule sur une artiste, une productrice de musique électronique qui, elle, vient de Lyon, qui s'appelle Roman Santarelli, qui va être très très chouette aussi pour le coup. Samedi soir, on est beaucoup sur des esthétiques, on va dire, fusion, c'est-à-dire qu'on se dit tout le temps, on va pas prendre un artiste qui fait du rock pur et dur, du rap pur et dur, ou n'importe quel style vraiment pur et dur, on essaie de trouver des artistes qui font des liens. Le parfait exemple, c'est un projet qui s'appelle Walter Astral, qui fait clairement le lien entre le rock, un peu de musique caraïbienne, tout ça, ils ont du banjo, un peu d'électro, house, techno, même sur les fins de set. Ça part dans tous les sens, et c'est un petit peu l'idée de ce samedi. On a un autre projet qui s'appelle Mad Mad Mad, qui est un projet anglais, où très clairement, le but de ce projet-là, c'est de proposer quelque chose qui n'a jamais été fait. Et on a en tête d'affiche quand même Aloïs Sauvage, donc là sur une pop urbaine, donc pareil, on mêle la pop, l'urbain, le rap, tout ça en même temps. Et en plus, elle fait du cirque sur scène, donc ça c'est aussi un gros spectacle à voir. Et on finit avec Étienne de Crécy. Étienne de Crécy, une grosse tête d'affiche électro pour le coup, qui pareil, fait pas de l'électro pur et dur, fait pas de la techno pur et dur, et très crossover entre l'électro, le rock, le rap, sur lequel il a commencé aussi à aller. Donc ça clôture plutôt bien ce samedi-là. L'autre après-midi du dimanche, hein, c'est une après-midi de 15h à 19h, on la veut très familial dans l'objectif. Par exemple, on va avoir la diffusion d'une chorale de 140 élèves construite par le conservatoire, qu'on va avoir un concert, ce qu'on appelle un concert éphémère qui a été créé tout au long de l'année avec le Centre Social des Possibles, qu'on va avoir une boum pour les enfants qui va se mettre entre les deux, de la sérigraphie qu'on aura, et on clôture quand même avec un groupe professionnel qui s'appelle Koutou cette année, qui est un groupe d'étudiants trans, qui clôturera sur la grande scène, donc assis dans l'herbe au soleil, de 17h30 à 19h. Ça va être plutôt chouette.
C'était Étienne de Crécy avec, en l'occurrence, le titre You. Étienne de Crécy qui passera à 1h sur la scène Magnolia ce samedi au festival Un Saint-Jean d'été à Mayenne. Comptez 14€ la place pour une soirée, 24€ pour deux soirs. Et la soirée du dimanche, elle, est gratuite. À noter aussi pour les festivaliers que le camping du Gué Saint-Léonard sera gratuit. On passe à un tout autre sujet, même si c'est vrai qu'on a eu une émission plutôt autour des festivals. Là, on va parler de la construction d'un nouveau pôle autisme à Laval. C'était l'un des sujets au menu de l'Assemblée Générale de l'ADAPEI 53, l'Association Départementale de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales en Mayenne. Assemblée Générale qui s'est déroulée vendredi dernier à l'IME, l'Institut Médico-Éducatif de Château-Gontier. L'occasion pour le directeur de l'ADAPEI 53 d'évoquer à notre micro les projets de l'association et certaines de ses préoccupations.
Alors je suis Sébastien Baudet, le directeur général de l'ADAPEI 53. Donc je suis en poste depuis 3 ans.
et la DAPEI 53 qui fait aujourd'hui son assemblée générale pour célébrer, on va dire aussi, ses 60 ans d'existence, c'est ça ?
Alors, il y a un peu plus de 60 ans, mais en tout cas, effectivement, l'association existe déjà depuis des années et milite pour que les personnes handicapées aient le maximum de réponses à leurs besoins sur les territoires de Laval et de Château-Gontier, puisque c'est notre lieu d'implantation pour notre association.
Les personnes adultes, évidemment, mais là, on est ici à l'IME pour les enfants aussi.
Donc en fait, on répond à tous les âges de la vie des personnes, puisque aujourd'hui, on a des services spécifiques pour des enfants avec autisme à partir de la naissance. On a même un service d'accompagnement à la parentalité expérimentale où on peut accompagner des parents en situation de handicap et qui, dès la grossesse déclarée de la maman.
Forcément, à chaque assemblée générale, c'est aussi l'occasion de faire un bilan. Quel bilan est-ce que vous tirez peut-être là de l'année qui s'est écoulée ou en tout cas de votre activité en ce moment même ?
Alors effectivement, on est une association loi 1901, donc toutes les années, statutairement, on doit faire notre assemblée générale. Il y a eu une volonté forte de notre présidente, Madame Évrard, de ramener un peu d'humanité, se pencher vraiment sur un moment festif et que cette association reprenne une vie, on va dire, un peu attendue par beaucoup de familles et de personnes en situation de handicap. Donc depuis 2 ans, on organise des journées avec un pique-nique dès le midi et une après-midi où il y a tout un tas d'animations adaptées aux familles et aux enfants, ce qui permet à découvrir des sites et à passer du temps ensemble. Et ça a été le cas cet après-midi, en plus avec le soleil. L'année dernière, on était à Ecologia. Donc chaque année, on change de site. Donc concernant les résultats et on va dire la situation de la DAPEI, on a une association qui est plutôt positive et sereine. On continue à avoir des nouveaux projets et des développements. Donc on a plutôt, on va dire, un avenir au beau fixe.
Parmi ces nouveaux projets, justement, je crois qu'il y a la constitution ou le renforcement d'un pôle autisme, c'est ça ?
Alors c'est effectivement une constitution, un renforcement, puisqu'en fait aujourd'hui on a un foyer d'accueil médicalisé qui accompagne des adultes avec autisme, mais on a simplement 7 places dans cet établissement, nous dans notre association. Mais sur la Mayenne, il y a quand même un nombre d'établissements pour répondre aux adultes avec autisme très très limité. Donc il y a un besoin qui est identifié par l'ARS et le conseil départemental. Donc on travaille avec eux pour obtenir les financements d'une transformation de notre foyer d'accueil médicalisé qu'on a aujourd'hui en un pôle autisme. Donc on a eu des accords et on est en phase de projet par rapport à ça. C'est très long puisque c'est un gros projet. Donc on sait que les délais administratifs sont plutôt pas adaptés aux attentes des familles et aux besoins des personnes. Mais en tout cas, on fait au mieux. On a un projet sur Laval puisqu'on a trouvé un terrain d'entente avec la mairie de Laval sur un prix du terrain. Donc on va aller s'installer au quartier Ferrier.
Alors évidemment, c'est que le début du projet, j'ai bien compris, mais ça ressemblerait à quoi ce pôle autisme ?
C'est l'équivalent d'un foyer d'accueil médicalisé spécialisé pour des adultes avec autisme sévère, mais on aurait également une équipe mobile, un accueil de jour et une palette de réponses qui serait adossée à cet établissement pour essayer de venir soulager et répondre aux besoins de ces personnes en situation de handicap qui parfois sont obligées d'être accompagnées dans d'autres départements. Faute de réponse en Mayenne. Aujourd'hui, en tout cas, on n'avait pas cette réponse-là sur la Mayenne. Donc il y avait un besoin et l'ARS et le conseil départemental ont effectivement validé ce projet pour venir répondre à ce manque, en fait.
Au niveau du calendrier, ça veut dire qu'il serait ouvert d'ici un an, un peu moins, un peu plus ?
On aimerait bien, mais non, pas du tout. Donc on s'est engagé et on a démarré un travail avec Mayenne Habitat, qui va être le bailleur social qui va porter le projet immobilier. Donc là, on va rentrer dans les phases de recruter et de trouver un architecte qui a quand même la connaissance de ce type d'établissement, puisque c'est très spécifique d'accompagner des adultes avec autisme sévère. Donc on va dire qu'on a encore à peu près 1 an de délai administratif et après les temps de la réalisation des travaux. Donc on est plutôt à des perspectives de 4 ans, quoi.
Vous disiez c'est important aussi dès la construction, c'est-à-dire que même l'architecte il doit connaître aussi un petit peu les particularités de ce type d'établissement.
complètement. Donc il va travailler avec les équipes et on a ce qu'on appelle des recommandations nationales sur comment aménager tel type de structure pour que ça réponde bien à ce besoin de personnes.
Donc un projet d'ici 4 ans, ça on l'a compris. Tout à l'heure, montrons sur l'estrade qui est juste devant nous plusieurs personnes donc, qui recevront des médailles du travail. Qu'est-ce que ça représente et pourquoi c'est proposé? Pourquoi c'est important? Pourquoi elles sont décernées?
Donc en fait, c'est les médailles du travail qu'on applique comme tous les salariés, tous les travailleurs peuvent avoir. Le choix qui est fait à l'ADAPEI, c'est de donner les médailles en même temps aux travailleurs handicapés qu'aux salariés de l'ADAPEI. Pour nous, on considère que tous les gens qui travaillent à l'association doivent avoir la même reconnaissance, et même s'ils ont un statut différent, ce que l'on peut quand même déplorer, au global, on est plutôt sur une valorisation qui doit être à l'identique.
Ça passe aussi donc par ces médailles du travail ?
Ça passe peut-être déjà par ça, commencer par ça. Aujourd'hui, il y a un projet de transformation des ESAT, ce qu'on appelle, il y a un texte de loi qui est venu rappeler qu'il était important que les ESAT se ressemblent ou en tout cas soient le plus proche possible du milieu ordinaire du travail et du code du travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça a des avantages parce que ça amène une protection supplémentaire. Ça a des inconvénients où, en termes de reconnaissance, on peut considérer qu'on n'est pas au même niveau que les autres salariés. En fait, l'idée, c'est qu'on va rester dans un statut spécifique, mais par exemple, des notions comme les représentants du personnel, des comités sur la qualité de vie au travail, des CHSCT pour s'occuper de l'hygiène, la sécurité au travail, comme dans les entreprises classiques, sont obligatoires maintenant, y compris dans les ESAT. Ça ne veut pas dire qu'on ne le faisait pas avant, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est structuré et c'est un vrai droit qu'ils ont obtenu. Donc c'est quand même une avancée et une victoire.
Est-ce qu'il y avait un autre sujet que vous souhaitez aborder juste avant de commencer cette assemblée générale qui vous tient à cœur, peut-être aussi dans les perspectives d'évolution de l'association ?
On travaille et on milite tout le temps pour obtenir des places, obtenir des réponses. Il reste une frustration quand même permanente, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de familles qui restent sans solution et pour lesquelles effectivement l'association n'a pas... toutes les possibilités. En tout cas, nous, on ne peut pas accueillir au-delà de nos autorisations qui nous sont données. Et c'est vrai qu'on peut se trouver devant le désarroi de certaines familles et sans avoir une réponse adaptée. Même si on peut quand même saluer le travail qu'on fait en partenariat avec la Maison départementale de l'autonomie, nos financeurs, pour essayer de trouver les meilleures solutions. Mais au final, il reste quand même une insatisfaction par rapport au nombre de places couvertes, que ce soit dans l'enfance ou auprès des adultes. Ça reste une tendance nationale, hein. Ce n'est pas propre à notre département, mais on ne peut pas s'en satisfaire pour autant. L'ARS cherche des solutions et a adapté de nouvelles réponses pour ces personnes-là. Mais on a déjà, nous, de toute façon, sur le département de la Mayenne, pour des enfants avec autisme, il manque 20 places aujourd'hui. Déjà. Donc forcément, la frustration, elle est importante à ce niveau-là en termes de ne pas pouvoir répondre à ces personnes. Et au niveau de l'adulte, on a une situation assez identique. Donc on cherche à plusieurs associations, on travaille beaucoup en partenariat, à innover, à proposer des réponses un peu différentes ou allégées, de manière à ce qu'avec les moyens qu'on a, on essaye d'apporter un maximum de soutien auprès des familles. Mais si on revient sur l'exemple du pôle autisme tout à l'heure, effectivement, on a au moins des moyens qui étaient conséquents dans le cadre du foyer d'accueil médicalisé, mais qui ne sont pas à hauteur des besoins des adultes avec autisme qui seront dans le pôle autisme. Donc on sait qu'à la fois, on va avoir déjà un manque de place à l'ouverture. Alors ça remplace, et il y a un autre phénomène, c'est que pour les personnes handicapées vieillissantes qui sont aujourd'hui au foyer d'accueil médicalisé, il y a une vraie inquiétude de quelle sera la place la plus adaptée à leur trouver. Et nous, en tout cas, et l'engagement de l'association est fort là-dessus, nous ne les laisserons pas tant qu'on n'aura pas une solution pour eux adaptée à leurs besoins.
Il n'y a pas forcément d'EHPAD avec une unité particulière, par exemple, dans le département ?
Alors le département a fait un gros travail et un gros effort pour créer des unités personnes handicapées vieillissantes adossées aux EHPAD. Mais là, quand on parle de personnes en foyer d'accueil médicalisé, on est sur, pour l'essentiel des personnes, un niveau de dépendance et d'autonomie qui ne correspond pas à ce que peuvent proposer comme réponse les EHPAD ou les UPHV aujourd'hui. les UPHV vont venir répondre et on travaille déjà, puisqu'en fait il y a une unité à peu près de ce type-là sur Château-Gontier qui s'appelle les Capucines. On travaille déjà avec eux, on a pu placer des personnes. Il y a deux autres unités qui s'ouvrent sur Laval cet été, avec lesquelles on travaille et on va pouvoir accompagner des personnes pour aller vers ces structures, mais ça ne répondra pas à toutes les personnes. C'est toujours une des difficultés qu'on a entre l'autorisation, un peu des types d'établissements et nous, des besoins auxquels il faut répondre au cas par cas.
Dans ces cas-là, il y a aussi des solutions transitoires où vous proposez peut-être quelqu'un qui vient à domicile.
Non, mais c'est un peu ça et ça peut être la sollicitation d'éducateurs qui vont aller au domicile, ça peut être des solutions un peu expérimentales. Après, l'inquiétude, c'est que parfois, c'est sur un temps court et ça ne répond pas à un besoin alors que la personne, ben, elle va en avoir besoin, elle, sans doute, toute sa vie, en fait. Donc, c'est là où on peut... encore une fois regretter que le pansement qu'on met pendant un moment, il est vraiment appréciable et nécessaire, mais il n'est pas forcément suffisant.
Tout malheureusement est une question de moyens aussi.
Tout est une question de moyens. On a quand même aussi évolué et ce qu'on appelle la transformation de l'offre médico-sociale, essayer de proposer des nouvelles formes de réponse en fait. Donc, je parlais des partenariats tout à l'heure, ça nécessite un vrai travail partenarial, ce qui est très déployé et très appréciable au niveau de la Mayenne. Donc on se sert beaucoup de cette articulation-là. Maintenant, ça ne peut pas répondre à tout quand même. Donc il y a encore du travail. Bon, on ne va pas être que pessimiste. L'Assemblée Générale, je vous le disais au début, est quand même plutôt positive et il faut se féliciter de ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a encore quelques zones d'ombre et on y travaille. Et je pense qu'en tout cas, on est à peu près tous en accord sur ces solutions qu'on a à trouver et à continuer à rechercher et à adapter pour répondre aux besoins des personnes.
L'Assemblée générale de l'association a aussi permis d'entendre des membres de l'association d'auto-représentants, nous aussi, qui ont participé à ce fameux projet de territoire plus inclusif porté par le département de la Mayenne et par l'ARS, l'Agence régionale de santé. On va reparler à nouveau de festival. Bah oui, on n'en parle jamais assez avec de précieux conseils donnés par Héloïse. Ce sera juste après Kill the Pain Chihuahua. Bah oui, c'est le titre de ce qu'on va écouter tout de suite. Et en fait, je me suis trompée, pas du tout. En fait, on change comme ça dans la programmation. On va écouter Up with the Jones de Bahamas tout de suite.
I started out, I had no plan. I took a job and soon was working for the man. And now it seems, through modern dreams, and all I've done is learn to live beyond my means. Yes, we had the house, and we had the car, and paid for it all on some credit card. Now that ain't right. My second home, your student loans, and every year I got myself a brand new phone. Ooh. Can't do without. Ooh. Don't have the nerve. Ooh. I tell myself that these are things that I deserve. Yes, I can make do with just half my check. I need all those things, and so I live in debt. That ain't right. I can't keep up with the Joneses. I can't slow down, I've lost control. I double down and tell myself I'm on a roll. It's not my fault, it's not like me. I never saw myself as someone who ain't free. Now I'm wondering, has it gone too far? Should I pick up the check at this hotel bar? Now that ain't right. No.
guess I can't keep up, I guess I can't keep up with the Joneses. Living like the money was king, I let it have a power on me. Now I recognize the funniest thing is I'm broken, now I'm finally free.
Donc là, tout est dit, c'était bien Up With The Jones de Bahamas dans l'agité du local sur l'autre radio. Et comme promis, eh ben oui, on retrouve Héloïse qui vous dévoile un kit de survie indispensable si vous partez en festival cet été.
Et oui Marie, je te le disais, ça y est, c'est l'été et pour beaucoup s'ouvre la grande saison des festivals. Que tu ailles à un Saint-Jean-été, au Foin de la Rue ou au VND Fest, c'est l'occasion de faire un point sur tout ce qu'il ne faut pas oublier pour profiter un maximum de ton week-end de folie.
D'abord, règle numéro 1.
Insolation, éteint, écarlate, du soleil tu te protégeras. Et oui, chères auditrices et auditeurs, le combo casquette et crème solaire est indispensable pour éviter de revenir de ton week-end comme une écrevisse.
Règle numéro 2.
De la bière, tu n'abuseras pas. On le rappelle à tous nos amateurs d'ambrée, en festival, l'eau, c'est à volonté. Et d'ailleurs, qui dit boisson à volonté, dit pipi régulier. L'occasion de rappeler qu'à moins de posséder un engin compatible avec le pipi de plein air, les toilettes seront malheureusement un passage obligé. Je dis malheureusement car on le sait, elles deviennent rapidement aussi dégueu que... Non, je préfère m'arrêter là. Bon, tu l'auras compris.
Merci.
Tu l'auras compris Marie, un gel antibactérien et du PQ, tu utiliseras.
Règle numéro 3, et pas des moindres.
Le consentement à la lettre, tu respecteras. Et oui, être en festival, faire la fête et être un peu, voire beaucoup, sous l'emprise de l'alcool ne te permet pas de faire exception à la règle. On le rappelle, l'objectif du festival est que tout le monde s'amuse et se sente safe dans n'importe quelle circonstance. L'occasion pour moi de rappeler l'existence de diverses assos, comme celle des Catherinettes, qui prônent par exemple une fête inclusive respectant les corps et les esprits. Alors tu l'as compris, les festivals c'est bien, dans le respect de tous, c'est mieux.
Règle numéro 4.
De quoi manger tu emporteras. À moins que tu comptes dépenser l'équivalent du PIB de la Chine pour un pauvre sandwich triangle. D'ailleurs, au passage, n'oublie pas de retirer du liquide à l'avance et de penser à te renseigner sur les bracelets de paiement rechargeables parce que les distributeurs sur le site, c'est l'horreur. Pour les plus ambitieux d'entre vous qui auraient pris l'option camping sur place, quelques conseils d'experts s'imposent. D'abord, une bassine et un gant de toilette, tu prévoiras. Afin d'être débarrassé du mélange crème solaire, sueur, poussière, bière, le plus efficace reste ce combo idéal. Car oui, à part faire partie de la team douche de nuit, pour optimiser tes chances d'avoir une cabine de douche de libre, la douche à 10h du mat n'y pense même pas. Et dans la famille accessoires de camping, voici une liste non exhaustive des indispensables survie en festival. Afin de retrouver ta pote Cathy qui s'est encore paumée entre la buvette et la scène 2 et qui n'a déjà plus de batterie alors qu'on n'est que vendredi, une batterie portable tu prendras. Deuxième indispensable, dans une lampe frontale tu investiras. Et oui, tu en auras bien besoin pour retrouver ton chemin parmi les 50 tentes de camping à 4h du mat avec 5 grammes dans chaque bras, car oui, tu n'es pas le seul à avoir une tente Quechua. D'ailleurs, n'oublie pas non plus une trousse de secours, parce qu'il y a fort à parier que quand tu sortiras faire pipi en pleine nuit, soit tu marcheras sur le piquet de ta tente que tout le monde a cherché 24 heures plus tôt, soit tu trébucheras sur un tendeur bizarrement invisible de nuit. Enfin, un dernier accessoire plus qu'utile de jour comme de nuit, mesdames et messieurs, de boules quiesses, vous vous équiperez. Et oui, que ce soit parce que tu veux préserver au maximum ta grasse matinée, que tu veuilles éviter le supplice d'entendre le seul artiste que tu détestes mais pourtant bien présent, ou tout simplement que tu as conscience que rester 48 heures sous 132 décibels, c'est peut-être pas l'idée du siècle, alors fais-moi confiance, investis dans des boules quiesses. Même si, bien souvent, certaines associations, telles que Agissons, délivrent gratuitement des protections auditives pour petits et grands, et t'expliquent aussi comment préserver et profiter de ton ouïe, le plus souvent possible.
Règle 3472.
Si tu as la malchance d'avoir choisi l'un des seuls festivals où il annonce un temps pourri, déjà grosse pensée à toi, et des vêtements de pluie tu prévoiras. Et oui, n'oublie pas une cape de pluie ou un sac poubelle si c'est vraiment la galère, mais au moins, crois-moi, ça dépanne et tu seras bien content d'être au sec une fois dans ta tente. Et pour terminer ce mode d'emploi parfait pour tes festivals cet été, voici ma règle d'or. Les petites scènes, tu ne négligeras pas. Parce que faire des festivals, c'est aussi l'occasion de découvrir des artistes vers lesquels tu ne serais jamais allé spontanément. Alors sois ouvert et curieux et fonce découvrir ces artistes, tant talentueux et pourtant trop souvent mis de côté. Voilà mes chères auditrices et auditeurs, vous avez toutes les clés en main pour profiter au maximum de vos artistes préférés, alors à vos marques, prêts, partez!
Eh ben super, moi ça y est, j'y suis déjà, je suis déjà vers les festivals. Merci beaucoup Héloïse pour cette chronique, merci aussi à Valentin pour la grosse voix.
C'était un plaisir.
Ah évidemment, inévitable, vous pensez vraiment que j'allais moi faire la grosse voix? Évidemment pas. Merci beaucoup, en tout cas j'espère que vous avez pris des notes chers auditeurs, chères auditrices, de ce kit de survie pour les festivals. Alors... J'allais dire ça rime avec festival, absolument pas. On va parler de bricolage dans notre reportage Pensée Locale ce jeudi, puisque partager, bricoler et s'entraider sont les trois valeurs de l'Établi, une association au Pont-de-Cé au sud d'Angers. Elle s'est donnée comme mission de servir de laboratoire aux initiatives de l'économie circulaire, avec sur place une bibliothèque d'outils et un espace atelier en libre service. Je vous propose d'écouter ce reportage de Radio G.
Pensée Locale. Un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Charlotte, de l'Établi, du coup, je suis chargée de développement enfance, famille, jeunesse, ici à l'Établi depuis septembre de l'année dernière.
C'est quoi ton rôle spécialement ici?
Alors c'est de faire tout ce qui se passe à l'Établi, mais auprès d'un public plus jeune. Voilà, rendre accessible notamment le bricolage auprès des jeunes, des enfants et puis des familles, aussi des parents qui ne savent pas forcément bricoler. Pouvoir accompagner leurs enfants dans une démarche de découverte, de réparation et de bricolage.
Donc là ça s'appelle l'Établi, c'est quoi le but de cet endroit-là?
Alors l'Établi c'est une association d'échange de savoir-faire manuel, où les gens, les personnes adhérentes peuvent venir bricoler, réparer des objets, les transformer, se tester. De base, c'était une bibliothèque d'objets. Dans la bibliothèque d'objets étaient mis à disposition tous les outils qu'avaient les personnes chez elles, dont elles ne se servaient pas ou qu'elles avaient en double, comme par exemple une perceuse, des broussailleuses, un broyeur à végétaux. Enfin voilà, on est vraiment spécialisé maintenant dans les outils de bricolage et de jardinage. Donc les personnes peuvent venir emprunter des outils ou venir directement sur place utiliser ces outils pour bricoler dans l'espace. Donc on a un espace bois, un espace métal et un espace sans poussière dans lequel on peut avoir du tricot, de la couture, de la maroquinerie, de l'électricité, de la réparation de vélos. Voilà, c'est assez large.
Je vois qu'il y a plein de machines qui sont là à disposition, qui ont l'air assez complexes. Moi, personnellement, je ne me verrais pas les utiliser. Il y a un accompagnement, j'imagine, pour aider toutes ces personnes à les utiliser, ces machines?
Oui, tout à fait. Et puis même les personnes connaissent déjà l'utilisation de certaines machines. On les accompagne au moins pour une première prise en main, jusqu'à temps d'être autonomes sur les machines parce qu'elles ont toutes leurs petites spécificités. C'est des machines qui nous ont été mises à disposition ou données par des personnes de passage ou des personnes adhérentes. Donc c'est vrai qu'on accompagne les personnes jusqu'à temps qu'elles soient autonomes sur les machines.
Toi, ça fait quelques mois que tu es ici déjà. Vous êtes combien à l'établi ?
En termes d'adhérents, il y a plus de 400 adhérents. Il y a eu une bonne vingtaine de bénévoles et on est 4 salariés. C'est 400 personnes de la dernière année parce que les adhésions sont valables pendant 12 mois. On est à plus de 1500 personnes depuis le début. Ça a été créé en 2015, donc ça fait 8 ans maintenant que l'établi existe. Et les personnes qui deviennent adhérentes peuvent être soit de passage express, emprunter une fois une tondeuse, ou alors des personnes qui passent tous les mois, une fois par an, pour réparer un meuble, assembler un t-shirt, voilà. C'est l'occasion de venir sensibiliser les gens et de pouvoir démontrer ce qu'on fait sans qu'il y ait forcément d'achat de réaliser. Après, il y a aussi des gens qui viennent des partenaires, du coup, avec la perspective de venir réaliser, donc là, d'accompagner des jeunes pour venir réaliser à l'établi, voilà.
Vous avez de nombreux partenaires ici à l'établi ?
Tous les acteurs socio-éducatifs d'Angers, principalement, voilà, ça nous arrive d'intervenir pour la ville directement, pour des associations annexes. La semaine dernière, on a travaillé avec la mission égalité et diversité de la ville d'Angers. Le lendemain, on était avec Angers Loire Habitat directement sur place, dans le parc Saint-Exupéry, en centre-ville. Le jour d'après, on travaillait avec un groupe de France Terre d'Asile. Bon, voilà, c'est divers et varié.
Ça ratisse très très large, en fait. Oui. Vous avez une action très très large, oui, sur un domaine, le bricolage, qui rassemble tout le monde, j'imagine.
Oui, parce que là, du coup, ce que tu vois à l'établi, c'est que la partie où on accueille les personnes ici au local, mais pour faire vivre l'association, on répond à de nombreuses prestations qui se déroulent en extérieur. En dehors de ces temps-là, on va faire des interventions. Donc c'est des interventions autour du bricolage, on va voir de la petite construction comme n'importe quoi, mangeoire à oiseaux par exemple, ou de la petite réparation jusqu'au gros chantier participatif où là on intervient du coup. C'est pas des commandes qui nous sont passées, on vient les réaliser avec des habitants et habitantes d'un quartier, par exemple, sur la construction d'un bar, d'une flexi-ourte, voilà, des choses un peu plus conséquentes, où là, on apprend aux gens sollicités du coup, par une association, une structure, à participer et à apprendre des choses par notre biais.
Un reportage de Nicolas Mercier pour Radio G.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Et c'est la fin de notre émission L'Agité du local. Retrouvez à 19h La Sagesse de Tugue, à 21h All Blues. Et nous, on revient demain. À très bientôt.